Le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. Bien entendu, on donna à MacConnor la place qui faisait face à celle du maître. Nerveux, l'Écossais allumait cigare sur cigare en consultant sans cesse la pendule. Mais notre illustre champion se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne m'étonna guère après les récits de mon ami, et il fit ensuite son apparition avec un insolent aplomb. Il se dirigea vers la table, d'un pas tranquille et mesuré. Sans se présenter. « Vous savez qui je suis, et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes. » Semblait-il nous signifier par là. Il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Comme une partie simultanée ordinaire était impossible, faute d'un nombre suffisant d'échiquiers, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il s'en irait à l'autre bout de la chambre pour ne pas troubler nos délibérations. Aussitôt que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir, puisqu'il n'y avait pas de sonnette. Si nous étions d'accord, on fixerait à 10 minutes le temps d'intervalle entre deux coups. Nous acceptâmes naturellement toutes ces propositions comme de timides écoliers. Le sort donna les noirs à Sentovic. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'en fut aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il avait choisie pour attendre. Il feuilleta négligemment un journal illustré. Le récit détaillé de cette partie offrirait peu d'intérêt. En 24 coups, nous étions complètement battus. Quoi d'étonnant à ce qu'un champion mondial ait aisément raison d'une douzaine de joueurs moyens. Ce qui nous était désagréable, bien plus tôt, c'était la suffisance avec laquelle Sentovic nous faisait sentir sa supériorité. Il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard distrait, nous considérait négligemment en passant, comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois, des chiens galeux auxquels on lance un os sans se détournant. S'il avait un peu de délicatesse, me disais-je, il attirerait notre attention sur les fautes que nous faisons, ou bien il nous encouragerait d'un mot aimable. Mais non, la partie terminée, cette sorte de machine à jouer aux échecs prononça « mat ». Puis resta là, immobile et muette, attendant de savoir si nous désirions recommencer. On est toujours dépourvu de moyens devant des épidermes aussi épais. Je m'étais levé, signifiant par là que j'estimais terminer ce divertissement, lorsqu'à mon grand dépit, j'entendis MacConnor dire à côté de moi d'une voix tout enrouée « Revanche !» Je fus épouvanté de son ton provoquant. En ce moment, MacConnor faisait plutôt penser à un boxeur qui va asséner un coup qu'à un gentleman bien élevé. Était-ce la manière peu agréable dont nous avait traité Sentovic ou simplement son ambition maladive? Toujours est-il que MacConnor paraissait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement et se mordait les lèvres. Un pli profond se creusait de sa bouche à son menton volontaire. Dans ses yeux, je reconnus avec inquiétude cette flamme de folle passion qui ne saisit d'ordinaire que les joueurs de roulette quand, pour la 6e ou 7e fois, ils ont misé double sur une couleur qui ne sort pas. Je prévoyais que cet amour-propre forcené allait lui coûter toute sa fortune, qu'il allait jouer et rejouer contre Sentovic jusqu'à ce qu'il ait gagné au moins une fois. Et si le champion persévérait, MacConnor serait pour lui une mine d'or dont il tirerait bien quelques milliers de dollars avant que nous ne soyons à Buenos Aires. Sentovic demeura impassible. « Comme il vous plaira, » répondit-il poliment. « C'est à ces messieurs de prendre les noirs. » La deuxième partie débuta comme la première. Notre cercle s'était animé seulement de quelques curieux. MacConnor regardait fixement l'échiquier. On eût dit qu'il voulait magnétiser les pièces pour les mener à la victoire. Je sentais qu'il eût volontiers donné 1 000 $ pour avoir le plaisir de crier « mat » à son peu galant adversaire. Il nous communiquait, malgré nous, quelque chose de son acharnement. Nous discutions chaque coup avec plus de passion qu'auparavant et nous ne nous mettions d'accord qu'au dernier moment pour donner à Sentovic le signal qui le rappelait à notre table. Nous étions parvenus ainsi au 17e coup et à notre propre ahurissement, la situation se présentait à notre avantage, car nous avions réussi à amener le pion de la ligne C jusqu'à la case C2. Il ne restait qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente. À l'unanimité, nous soupçonnions Sainte-Vic, qui voyait évidemment plus loin que nous, de nous tendre cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter, nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai réglementaire touchant à sa fin, nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà, MacConnor poussait le pion lorsque quelqu'un le saisit brusquement par le bras et lui chuchota vivement « Pour l'amour du ciel, ne faites pas cela !» Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 45 ans au visage étroit et anguleux que j'avais déjà rencontré sur le pont et qui m'avait frappé par sa pâleur extrême. Il avait dû s'approcher de nous pendant que nous étions absorbés tout entiers par le problème à résoudre. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta précipitamment « Si vous faites dame maintenant, l'adversaire vous attaque immédiatement avec le fou ancien et vous ripostez avec le cavalier. Mais entre-temps, il ira menacer votre tour en D7 avec son pion libre. Et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes perdu et battu en 9 ou 10 coups. » Ce sont à peu près les positions qu'avaient Alekhine et Bogo Djoubov lors du grand tournoi de Pistiane en 1922. Surpris, MacConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda émerveillé, comme nous tous, cet homme qui semblait tomber du ciel à la manière d'un ange sauveur. Pour prévoir 9 coups d'avance qui feraient mat, ce devait être un professionnel distingué, peut-être même un concurrent de Sainte-Vic se rendant au même tournoi. Son arrivée et sa soudaine intervention à un moment aussi critique tenaient presque du miracle. Ce fut MacConnor qui se ressaisit le premier. « Que me conseillez-vous » murmura-t-il, fort excité. « N'avancez pas maintenant. Évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8-H7. » Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour C8-C4. Cela lui coûtera 2 coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre, et si vous vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. Nous étions de plus en plus étonnés. La précision et la rapidité de ses calculs étaient déconcertantes. On eût dit que cet homme lisait ses coups dans un livre. La chance inespérée que nous avions maintenant de faire, grâce à lui, partie nulle contre un champion mondial, tenait de la magie. D'un commun accord, nous nous écartâmes pour mieux lui laisser voir l'échiquier. MacConnor répéta « Déplacer le roi de G8 en H7 ?»« Certainement, il faut éviter l'adversaire. » MacConnor obéit. Et nous frappâmes sur le verre. Sainte-Vic s'approcha de son pas tranquille et apprécia la riposte d'un coup d'œil, puis il poussa un pion de H2 en H4 sur l'autre flanc du roi, comme l'avait prévu notre sauveteur inconnu, qui aussitôt nous chuchota vivement « La tour, avancez la tour de C8 en C4 pour qu'il soit obligé de protéger son pion. Cela ne lui servira d'ailleurs à rien. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3 D5 sans vous soucier de son pion libre, et voilà la situation rétablie. » Cette fois en avant. Il n'est plus nécessaire de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire, pas plus que s'il eût parlé chinois. Cependant, MacConnor, subjugué, fit ce qu'on lui ordonnait sans réfléchir davantage. Le verre tinta de nouveau. Pour la première fois, Sainte-Vic ne joua pas immédiatement. Il regarda d'abord l'échiquier avec une attention soutenue. Puis il fit exactement le coup que l'étranger nous avait annoncé et s'apprêta à s'éloigner. Alors, se produisit un fait nouveau, inattendu. Sainte-Vic leva les yeux et il examina nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Dès ce moment, notre excitation ne connut plus de bornes. Si nous avions été jusque-là sans espoir, la pensée de briser la froide arrogance de Sainte-Vic nous brûlait maintenant le sang. Déjà, notre nouvel ami avait décidé du coup suivant. Mes doigts tremblaient quand je saisis la cuillère pour rappeler Sainte-Vic en frappant sur le verre. Nous connûmes alors notre premier triomphe. Le champion qui avait toujours joué debout hésita et finit par s'asseoir. Il se laissa tomber à regret et pesamment sur son siège. Qu'importe, il cessait ainsi de marquer physiquement sa supériorité sur nous. Nous l'avions obligé à se mettre sur le même plan que nous, tout au moins dans l'espace. Il réfléchit longtemps, penché sur l'échiquier, si bien qu'on voyait à peine ses yeux sous les sombres paupières, et il faisait un tel effort qu'il en ouvrait la bouche, ce qui donnait à sa figure ronde une expression un peu niaise. Au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Notre ami murmura aussitôt « Bien joué ». Il ne se compromet pas, mais ne vous y laissez pas prendre. Obligez-le à choisir. Il le faut pour obtenir partie nulle. Et alors rien ne pourra plus le sauver. McConnor obéit. Ensuite, les deux adversaires se livrèrent sur l'échiquier à un manège auquel nous autres, comparses inutiles, ne comprenons rien du tout. Après 6 ou 7 coups de cette espèce, Sentovic resta longtemps songeur. Puis il déclara. Partie nulle. Il y eut un instant de silence complet. Dans le fumoir, on entendit tout à coup le bruit des vagues. La radio du salon nous envoya un jazz. Chaque pas résonna distinctement sur le pont. On perçut jusqu'au léger sifflement du vent passant par les interstices des fenêtres. Le souffle coupé par la rapidité de l'événement, nous étions véritablement effrayés de l'invraisemblance de cette aventure. Comment cet inconnu avait-il eu le pouvoir de faire perdre à moitié une partie à un champion mondial ? McConnor se renversa brusquement en arrière et poussa un « Ah, joyeux !» J'observai Sentovic. Il m'avait semblé qu'il pâlissait un peu pendant les derniers coups, mais il savait se contenir. Toujours raide et indifférent, il demanda d'une voix neutre, en repoussant de la main les pièces de l'échiquier, « Ces messieurs désirent-ils faire une troisième partie ?» Il posait la question de manière purement objective, en homme d'affaires, mais en prononçant ces mots, il ne s'adressait pas à McConnor, car il jeta un regard perçant et direct dans la direction de notre sauveteur. Comme un cheval sait reconnaître un bon cavalier à son assiette, Sentovic devait avoir reconnu son véritable adversaire au dernier coup de la partie. Involontairement, nous avions suivi son regard et nous tournâmes les nôtres vers l'étranger. Sans lui laisser le temps de réfléchir ou seulement de répondre, McConnor lui cria, débordant d'orgueil, triomphant, « Mais naturellement, mais vous allez jouer seul contre lui, vous seul contre Sentovic !» Un fait surprenant se produisit alors. L'étranger, qui était resté bizarrement absorbé par l'échiquier vide, sursauta, en sentant tous les yeux fixés sur lui et en s'entendant interpeller avec un tel enthousiasme, il parut troublé. « Jamais de la vie, messieurs, bégaya-t-il, confus. C'est tout à fait impossible. Je ne saurais entrer en considération. Il y a 20 ou 25 ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission et je m'aperçois maintenant seulement combien c'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un importun qui ne recommencera pas, je vous assure. » Et avant que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce.
« Cela ne se passera pas ainsi !» tonna le bouillant McConnor en frappant du poing sur la table. « 25 ans que cet homme n'a pas joué aux échecs, mais c'est tout à fait impossible. Il combinait chaque coup, connaissait longtemps d'avance la tactique de l'adversaire. Personne ne peut jouer ainsi tout de go. C'est absolument impossible, n'est-ce pas ?»
Il s'était tourné volontairement vers Sentovic en disant ces derniers mots, mais le champion resta impassible. « Je ne puis en juger. Il est certain que monsieur a joué de manière intéressante. C'est pourquoi je lui ai intentionnellement laissé une chance de gagner. » Tout en parlant, il se leva et ajouta négligemment « Si l'un ou l'autre de ces messieurs désirait faire une partie demain, je suis à leur disposition dès 3 heures de l'après-midi. »
Nous ne pûmes réprimer un léger sourire. Nous savions tous que Sentovic n'avait pas eu à se montrer généreux envers notre sauveteur inconnu et que sa remarque n'était qu'un naïf subterfuge servant à cacher sa mésaventure. Notre désir d'abaisser tant d'orgueil s'en accrut. Paisibles et indolents passagers que nous étions, jusque-là nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse à la pensée que sur ce bateau, en plein océan, Sentovic pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier.
À cela s'ajoutait encore l'attrait du mystère dans lequel était apparu notre héros et le contraste de sa modestie presque excessive avec l'imperturbable arrogance du professionnel. Qui était cet inconnu ? Le hasard nous avait-il fait découvrir un nouveau génie de l'échiquier ? Ou bien était-ce un maître déjà célèbre qui nous cachait son nom pour un motif impénétrable ? Nous débattions ces questions avec la plus grande animation et les hypothèses les plus hardies ne l'étaient point encore assez pour concilier la timidité de l'étranger et sa surprenante confession avec son évidente connaissance du jeu d'échecs. Sur un point, cependant, nous étions unanimes. Nous voulions à tout prix décider l'inconnu à jouer une partie contre Sentovic. Le lendemain, et McConnor s'engagea à couvrir les risques financiers de l'affaire. Sur ces entrefaites, on apprit en interrogeant le steward que l'étranger était autrichien. Et je fus chargé, puisque j'étais son compatriote, de lui présenter notre requête. J'eus vite fait de le retrouver sur le pont où il s'était réfugié. Il lisait, étendu sur sa chaise longue. Avant de l'aborder, je le considérais longuement. Sa tête anguleuse s'appuyait au coussin dans une pose un peu lasse, et l'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau. Ses cheveux étaient tout blancs. J'avais, je ne sais pourquoi, l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchai de lui et se présenta. Son nom était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée. Je me souvins qu'un ami de Schubert l'avait porté, ainsi qu'un des médecins de l'empereur. Lorsque je lui eus fait part de notre désir, il parut très déconcerté. Je découvris qu'il n'avait pas eu la moindre idée qu'il jouait contre un champion, et même contre le champion le plus célèbre de l'époque. Ce fait parut lui faire beaucoup d'impression, car il me demanda plusieurs fois si j'étais sûr de ce que j'avançais, et si son adversaire était vraiment un maître aussi connu. Cela facilita ma tâche. Cependant, je sentais en lui tant de délicatesse que je jugeais plus à propos de ne rien dire des risques matériels que MacConnor prenait à sa charge. Après un long moment d'hésitation, M. B. se déclara prêt à accepter le défi, mais, ajouta-t-il avec un sourire pensif, dites bien à ces messieurs qu'ils ne doivent pas fonder sur moi de trop grands espoirs. J'ignore en vérité si je suis capable ou non de jouer une partie d'échecs selon les règles. Croyez-moi, c'était sans aucune fausse modestie que j'ai affirmé n'avoir pas touché à un échiquier depuis le temps où j'étais lycéen, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, et je n'étais même alors qu'un joueur insignifiant. Il disait cela avec tant de simplicité que je ne pouvais douter de sa loyauté. Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement de ce qu'il pût se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres qu'il avait cités. Il devait s'être beaucoup intéressé aux échecs, théoriquement du moins. À ces mots, M. B. eut de nouveau son étrange sourire songeur. Si je m'en suis occupé, Dieu seul sait à quel point ce que vous venez de dire est vrai. Mais la chose se produisit dans des circonstances tout à fait particulières, voire uniques. C'est une histoire assez compliquée et qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons. Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure. D'un geste, il m'invita à m'asseoir sur la chaise longue qui était à côté de la sienne. J'acceptai de bon cœur. Nous étions seuls. Monsieur B. ôta ses lunettes et commença.